l'histoire du témoignage de Philadelphie et l'histoire d'un témoignage accompli dans la faiblesse, mais dans un amour certain pour le Seigneur, et plus encore dans la conscience de cet amour du Seigneur pour nous. Et le Seigneur montre le terme d'un tel chemin en annonçant sa venue. Voici, je viens bientôt. La première fois que nous avons l'annonce par le Seigneur lui-même de sa venue, quand il dit « Je viens bientôt ». C'était cette parole qui était gardée par les témoins de Philadelphie et qui est gardée par les témoins qui portent ce caractère philadelphien. Cette parole était la parole de la patience du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur a annoncé qu'il viendrait. Nous avons à réaliser la patience d'espérance, attendre avec patience son retour, mais le Seigneur lui-même attend. Il attend lui-même. Nous ne sommes pas seuls sur la terre à attendre le retour du Seigneur, mais le Seigneur attend ce moment décrété par Dieu son Père où il viendra nous chercher. C'est la parole de sa patience et nous avons à la garder. Eh bien, parce que les témoins de Philadelphie gardent la parole de la patience du Seigneur, eh bien, lui aussi gardera. Nous avons le même verbe, mais un sens un peu différent. Je te garderai, c'est-à-dire que tu seras protégé vis-à-vis de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Cela fait penser la parole de la patience du Seigneur au vœu de la deuxième épître aux Thessaloniciens, quand l'apôtre dit « Or, que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Christ attend pour venir nous chercher, comme nous-mêmes sur la terre nous attendons l'heure où il viendra nous chercher. » C'est cela, garder la parole de la patience du Seigneur.
C'est le verset cité dans 2 Thessaloniciens qui se trouve depuis 128 années, chaque 1er janvier, sur le messager évangélique, nous invitant effectivement à l'amour de Dieu et à la patience de Christ. Ce n'est plus la patience dans la souffrance. J'ai attendu, dit-il, psaume 40, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri, et il m'a fait remonter hors des profondeurs du Sheol. C'est maintenant la patience dans l'attente que nous partageons avec lui, désirant avoir auprès de lui sa chère assemblée, sa chère épouse. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean peut dire aux saints qu'il s'adresse à nous, tout comme à eux, nous avons part à la tribulation, au royaume et à la patience du Christ. Le royaume, sans doute, nous le possédons maintenant, c'est une certitude. Le Saint-Esprit en nous est les arts de l'héritage que nous possédons, qui nous a été acquis en vertu de l'œuvre de Christ. Mais le royaume n'est pas encore déployé dans sa puissance. Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Mais nous avons part au royaume. Mais c'est un royaume maintenant avec la tribulation et la patience. Tout à l'heure, ce sera le royaume avec la gloire et la puissance. En attendant que nous en soyons là, Philadelphie est caractérisée par la patience, la parole de la patience du Christ. Et elle rencontre l'opposition de ceux qui se disent être juifs. Convient encore, sans revenir en arrière, de souligner ce qui a été souvent dit, partout où il y a des prétentions ecclésiastiques, il y a l'opposition en Philadelphie, voire même la persécution. Un de nos chers devanciers pouvait dire, les adversaires les plus amers des croyants fidèles, ce sont ceux qui se disent fidèles sans l'être, partout où il y a une religion de forme qui se fonde sur certaines vérités ou sur des privilèges reçus, mais sans que ceux-ci exercent la conscience ou l'obéissance, et où il y a la prétention d'être la continuation historique de ce que Dieu avait établi au commencement, partout, ce système se dresse contre Philadelphie, parce que la séparation de Philadelphie, par amour pour le Seigneur, désavoue le principe de ce système. Alors les plus amers adversaires des fidèles, disait notre frère William Kelly, sont ceux qui se disent fidèles, mais sans l'être, ceux qui se disent être juifs.
C'est le cantique 104.
Assez longuement de la venue du Seigneur. Permettez une remarque consolante pour tous ceux qui, dans leur proche au moins, et peut-être moins proche, se sont endormis dans le Seigneur. Il est vrai, le Seigneur attend pour venir chercher les siens. Tous les siens, pas seulement l'Église, mais tous les siens depuis Adam, tous ceux qui sont morts dans la foi, à sa venue, il attend. Et nous-mêmes, tous les croyants maintenant sur la terre, les vrais enfants de Dieu, l'attendent, ou du moins doivent l'attendre, dans les conditions que nous connaissons. mais ceux qui nous ont devancés, ceux qui se sont endormis en Jésus, comme la parole nous le dit, ils attendent aussi. Il est vrai, dans des conditions toutes différentes des nôtres, conditions infiniment supérieures, mais ils attendent aussi. Qu'est-ce qu'ils attendent ? La gloire, car ils n'y sont pas encore. Ils sont auprès du Seigneur, qui est beaucoup meilleur. La gloire ne sera réalisée qu'après sa venue. Il faut pour cela, il faut la résurrection de ceux qui se sont endormis, la transmutation des vivants, ce qui s'opérera selon la parole de Thessaloniciens en un clin d'œil. Alors, après cela, nous pourrons parler de la gloire. Donc, ils attendent aussi. Et combien cela est consolant pour ceux qui ont des leurs, qui les ont devancés.
Presque, nous ne pouvons pas, je crois, terminer même cet épître à Philadelphie. Relevons cependant encore au verset 11 que si c'est une promesse bien consolante, bien encourageante que le Seigneur donne à ses fidèles, je viens bientôt, c'est en même temps et une parole et qui est une parole d'exhortation. Et à prendre garde, à tenir ferme, de peur, afin que personne ne prenne ta couronne. Même et de vrais Philadelphiens étaient exposés à ne pas tenir ferme. Toujours, et nous avons à lutter pour tenir ferme. Non pas avec nos propres forces sans doute, mais nous risquerions de déchoir, et comme ça nous arrive souvent, de déchoir de notre propre fermeté. C'est le langage de l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Il s'agit de tenir ferme en comptant sur la force de celui qui tient la porte ouverte, qui a la clé de David, le pouvoir administratif en toutes choses, mais dans le sentiment de notre faiblesse, dans le sentiment que lui-même a la force, c'est une chose, mais dans le sentiment aussi, et Dieu veuille nous le donner toujours davantage, du prix inestimable et de ce que, par grâce, nous avons. De ce que nous avons entre les mains, par la foi elle-même étant un don de Dieu. Mais si nous estimons ces bénédictions spirituelles, conséquences de l'œuvre de Christ, et si nous avons quelque peu conscience de la valeur infinie de la personne que nous sommes appelés à connaître, à aimer, dans l'intimité de laquelle nous sommes appelés à progresser. Oh, alors, est-ce que cela ne paraîtra pas pour nous quelque chose d'infiniment supérieur à tout ce que le monde peut produire, peut donner, peut offrir? Et l'opprobre de Christ, car cette assemblée dans l'opprobre, ceux qui se disent être juifs, qui ne sont pas et qui mentent. Leur propre de Christ, un plus grand trésor que les richesses de Moïse, de l'Égypte. Ainsi faisait Moïse. Puissions-nous faire ainsi, chers amis. On nous invite de tant de côtés, à tant d'activités diverses, dont beaucoup nous détourneraient en réalité de la personne de Christ, nous priverait de cette intimité humble de quelqu'un qui prend sa place aux pieds de Jésus pour pouvoir ensuite, comme l'a fait Marie, au moment voulu, faire ce qui plaît à son cœur, ce qui l'honore, et ce qui est à la pensée de Dieu, ce qui est le bonheur, méprisé peut-être par un Judas et par les autres disciples. Vaut la peine de penser à cela, chers amis. Tiens ferme ce que tu as, c'est si précieux, c'est si grand, et je veux te donner encore bien davantage une jouissance présente et dans l'attente de mon retour. Il y a une couronne, la couronne de la fidélité, et la couronne qui est prête pour toi, et, puisque j'ai dit qu'on connaîtra et que je t'ai aimé, mais prends garde qu'on ne prenne ta couronne. Et puis viennent alors les encouragements par les promesses données aux vainqueurs, tout cela terminant cette épître particulièrement précieuse, sérieuse par ailleurs, mais qui contient tout ce qui est nécessaire pour que sur la terre des croyants, fussent-ils un tout petit nombre, fussent-ils réduits à deux ou trois, le plus faible témoignage, peuvent réaliser ce qui appartient à l'Église de Christ tout entière, l'Église telle qu'il la voit, telle qu'il la veut. Et pour la promesse faite à Philadelphie, comme si elle était toute l'assemblée. Il n'est pas parlé de la vie du Seigneur de la même manière aux autres assemblées. Mais pour elle, voilà ce qui est devant moi. J'enlève mon Église tout entière. Et Philadelphie ne se donnerait pas comme l'Église tout entière. Mais le témoignage de Philadelphie est celui que l'Église tout entière est appelée à rendre et qu'elle n'a pas rendu. Car pour le rendre, il faudrait que l'on sorte, que tous les chrétiens sortent des églises humaines et de tout ce qui relève soit de Thyatire, soit de Sardes, hélas, de la Odyssée. Mais si cela n'est pas réalisé maintenant, cela sera réalisé un moment, un instant, un clin d'œil au moins sur cette terre, lorsqu'il viendra et qu'il prendra tous les siens, sans en laisser aucun des fidèles qui seront encore dans Thyatire, aucun des fidèles qui seront dans Sardes, pas un de ces fidèles à la porte desquels Jésus aura frappé dans l'Odyssée et qu'il lui aura ouvert. Tout cela est digne de notre attention. Que le Seigneur bénisse cette lecture, ces quelques pensées exprimées. Je ne dis pas cela en pensant que on est à terminer sur ces paroles. Peut-être d'autres frères ont-ils quelque chose à dire brièvement, mais que notre pensée, notre cœur, notre esprit, notre foi, notre espérance, notre amour, et tout soit là concentré sur la personne bien-aimée, adorable, et de celui qui peut dire à cette Église, tous connaîtront que je t'ai aimé. La première et la troisième fois.